Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de notre émission Écho de ma commune et de mon canton, et c'est Émilie qui est en régie technique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Chartrain le tout jeune député de la première circonscription d'Eure-et-Loire, Guillaume Casbarian, député LREM, La République En Marche, parti créé en 2016 par celui qui allait devenir, quelques mois plus tard, le plus jeune président de l'histoire de la Ve République, Emmanuel Macron. Guillaume Casbarian, bonjour.
Bonjour Monsieur Jubien.
Je suis allé sur Wikipédia pour faire le point sur votre parti politique. J'y ai lu que La République En Marche était un parti social-libéral classé au centre sur l'échiquier politique. Est-ce que cette définition vous convient? Est-ce que vous sentez appartenir à un parti social-libéral, au parti centriste?
Alors c'est pas vraiment, si vous me posiez la question, c'est pas vraiment la définition que je ferais d'En Marche. En Marche, il s'est construit sur le refus du clivage gauche-droite et sur le refus de nous mettre dans des cases prédéfinies qui ont l'habitude de jalonner la vie politique depuis des années. Donc social-libéral, il faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire.
Ou libéral social.
Mais vous savez, il y en a. Regardez le parti Agir, les constructifs qui s'est créé. Lui aussi a dit qu'il voulait défendre les valeurs libérales et sociales. Enfin, pour moi, c'est des concepts assez idéologiques, assez creux, qui définissent pas réellement notre vision des choses. Nous, on a toujours défini En Marche comme étant un mouvement de la société civile et de droite et de gauche, qui analysait les propositions non pas si elles venaient de droite ou de gauche, mais juste si elles fonctionnaient, elles marchaient ou pas. Et à partir de là, on a décliné un programme qui est fondé sur trois grandes valeurs. La première, c'est libérer le travail, libérer les énergies, libérer les réglementations, libérer l'initiative individuelle, protéger plus les individus face aux aléas de la vie, les entrepreneurs face aux risques d'activité, les chômeurs, protéger. Et le dernier qui est réconcilier, c'est-à-dire cesser d'opposer les uns aux autres et considérer que quand on a un problème, ça vient d'autrui. C'est-à-dire on a souvent tendance dans la vie politique à penser que quand ça va mal, c'est à cause de l'étranger ou à cause du riche ou à cause du pauvre ou à cause du chômeur ou à cause de tout ça. Nous, on n'a jamais été dans cette optique-là de chercher des boucs émissaires, on a toujours été dans la réconciliation. Donc pour vous répondre par rapport à la définition, moi je définirais pas En Marche comme un parti social-libéral ou libéral-social du centre, c'est pas du tout la façon dont je le vois. Pour moi, c'est un parti progressiste qui rebat les cartes, qui est pragmatique, qui est fondé sur la société civile et qui a une optique, qui a trois optiques. La première, c'est libérer, protéger et réconcilier. Alors, ça peut paraître simple à ceux qui essayent de faire de l'idéologie, mais pour autant, je pense que c'est ça l'essence même d'En Marche.
Un parti fondé finalement sur la promotion de l'initiative individuelle contre le nous.
Contre le nous.
N-O-U-S contre la communauté, finalement
Encore une fois, comme je l'ai dit, on est dans la réconciliation, donc on va pas opposer les individus contre les communautés ou les groupes. Ce qu'on dit, c'est qu'en même temps et à la fois, on doit s'appuyer sur l'initiative individuelle de chacun, c'est-à-dire que oui, chacun est responsable de sa vie, de sa progression, de sa capacité à sortir et de son assignation à résidence, sa capacité à progresser. Donc oui, il y a une responsabilisation individuelle qui a toujours été très forte chez nous et sur laquelle on peut se retrouver d'ailleurs avec des libéraux, c'est sûr. Et en même temps, on n'a jamais souhaité l'opposer au nous et au collectif. C'est-à-dire que le collectif permet aussi à notre société d'avancer. Vous avez que ce soit des associations, que ce soit des groupes d'intérêt, que ce soit des entreprises, que ce soit des communautés. Elles sont tout autant essentielles que l'initiative individuelle pour faire avancer les choses. Donc on ne va pas opposer individu contre collectif. On essaye de les réunir et de les faire avancer sur les deux jambes.
Voilà. Alors, les gouvernements sociaux-libéraux j'ai quand même, qu'on peut continuer de l'appeler sociolibéraux. Très en grâce, il y a encore peu de temps dans plusieurs grandes démocraties européennes sont aujourd'hui en difficulté. On voit bien la montée de certains partis dits populistes en Allemagne, en Autriche, dans les anciens pays du bloc de l'Est. Emmanuel Macron est-il la dernière chance finalement de l'Europe? De l'Union européenne, l'Union des pays européens.
Alors, deux choses. Sur la partie social-libérale, encore une fois, j'ai un petit peu de mal avec cette définition parce que...
Tu parlais des autres gouvernements, hein,
bien,
pas d'une autre.
J'entends
hein.
bien, pas d'une autre. Bien évidemment, En Marche est construit sur un projet européen très très fort. Sur une croyance non pas béate que tout allait bien en Europe, mais que l'Europe était bien un maillon essentiel de la prospérité économique, de la paix, de la croissance, des échanges, et qu'il fallait la transformer durablement, proposer de la rendre plus proche des citoyens, la rendre plus concrète, l'utiliser pour libérer encore plus les énergies et protéger encore plus notre marché commun et notre continent vis-à-vis de l'extérieur. Donc Emmanuel Macron est quelqu'un de profondément pro-européen, avec cette volonté essentielle de transformer l'Europe pour la rendre plus efficace, plus proche, plus protectrice. Et donc oui, il faut la changer et oui, il faut être pro-européen. Enfin, en tout cas, c'est notre credo.
Oui. Et vous pensez que... Est-ce qu'il est seul dans cette optique finalement aujourd'hui, un peu isolé? On voit bien qu'Angela Merkel en Allemagne, on voit la montée des populismes un peu partout. Finalement, c'est en France que ça se passe peut-être le mieux. Les partis dits populistes, encore je dis dits populistes, sont en baisse, en tout cas depuis la rentrée, on va dire.
Alors, je pense que la réalité politique dans les autres pays européens est plus complexe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Je pense qu'en Allemagne, il y a encore des pro-européens, bien heureusement. Il y en a aussi en Belgique, il y en a en Hollande, il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Donc, on n'est pas non plus dans un raz-de-marée qui fait que tout le monde a envie de sortir de l'Europe. Il ne faut pas tomber dans ça. En revanche, il y a une vraie volonté, je pense, commune et une vraie conscience commune qu'il faut réformer l'Europe, qu'elle ne peut pas continuer à être aussi détachée des problématiques quotidiennes des citoyens, qu'elle peut pas, qu'elle doit être encore optimisée pour mieux protéger vis-à-vis du commerce international, des menaces extérieures, etc. Et que donc il faut la transformer. Ça, tout le monde fait ce constat-là, tout le monde fait ce diagnostic.
Vous plaidez pour une forme de protectionnisme européen.
C'est pas du protectionnisme. Alors vous savez, je suis à l'Assemblée, je suis actuellement rapporteur d'une commission d'enquête sur la politique industrielle. Et bien évidemment, au cours de nos éditions, on se rend compte que l'Europe est un formidable outil pour nous protéger effectivement de certaines entreprises étrangères et certaines politiques étrangères qui, bien que dans l'immense majorité des cas, ne sont pas hostiles à nos intérêts et veulent juste commercer et faire du business avec nous de façon parfaitement rationnelle, pacifique, etc. Pour autant, on a certains groupes étrangers qui utilisent un certain nombre d'outils qui ne sont pas forcément favorables aux intérêts européens. Et face à ça, l'Europe a bien évidemment son rôle au niveau de la politique industrielle pour faire émerger des champions industriels européens, c'est essentiel. Il ne faut pas être naïf, hein, les autres le font, hein, les États-Unis, la Chine, etc. Donc il faut qu'on le fasse. Et protéger aussi notre marché, c'est-à-dire que de dire, vous voulez avoir accès au marché unique, vous voulez commercer avec nous, vous voulez investir en France, il y a, comme chez vous, hein, en Chine ou aux États-Unis, il y a des conditions à remplir et l'Europe joue son rôle pour protéger notre savoir-faire, nos emplois et notre fonctionnement. Donc je ne suis pas dans un protectionnisme en disant il faut fermer les barrières, c'est absolument pas mon point de vue. Je dis juste qu'il faut pour autant avoir les mêmes outils tout aussi puissants que nos voisins mondiaux pour pouvoir à la fois permettre l'émergence de champions européens comme dans d'autres parties du globe, et en même temps protéger nos intérêts et éviter des stratégies externes de dumping ou de certains États qui financent même directement des entreprises pour qu'elles puissent acheter des contrats internationaux. Ça existe, hein, on l'a bien vu pendant l'enquête. Donc l'Europe est un levier de protection, non pas un... C'est pas un protectionnisme, c'est pas du tout le but. Moi,
en tout cas, peut-être un peu pas isolationniste. Enfin, vous avez dit protéger, donc...
Oui, mais en fait, il y a une différence entre protéger, parce qu'on n'est pas naïf.
Mais c'est pas un gros mot, protectionnisme.
Non, mais j'ai une fibre qui est assez sensible aux libertés de commercer. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours été sensible à la liberté de circulation, la liberté de commerce et aux échanges commerciaux mondiaux. Donc, je suis quelqu'un qui est pro-libre-échange, on pourrait l'appeler comme ça. En revanche, je suis pas non plus dans un libre-échange béat et incontrôlé, c'est-à-dire que si des pays étrangers comme aux États-Unis ou en Chine utilisent des armes financières, réglementaires, pour défendre leurs intérêts, je dis qu'on ne doit pas être naïf et qu'on doit en faire tout autant. Donc mon point est juste d'être dans la réciprocité des échanges, dans l'égalité des échanges, et donc dans la protection de nos intérêts. Mais ça, je pense que c'est pas être protectionniste que de dire ça. C'est juste être attentif à ce que nos intérêts soient préservés.
Alors, le paysage politique de la France a été littéralement dévasté par la fusée Macron. Plus rien ne sera comme avant, est-on tenté de dire. Bon, le PS n'existe pratiquement plus. Le Front National est en difficulté depuis le départ de Florian Philippot. Une partie des Républicains vous a plus ou moins rejoint. Et Jean-Luc Mélenchon, après des débuts tonitruants à l'Assemblée, semble marquer le pas. Est-ce que vous avez le sentiment, à La République En Marche, d'avoir le champ libre? Est-ce que ça fait peur, ça?
Est-ce qu'on a le champ libre? C'est un grand mot, champ libre. Vous savez que les oppositions, elles sont multiples. C'est-à-dire que même si, effectivement, on a recomposé profondément la vie politique, on a rebattu les cartes et on a fait perdre, entre guillemets, les repères d'un certain nombre de responsables politiques, on a quand même des oppositions. À l'Assemblée, au quotidien, je peux vous assurer qu'on a une opposition de tous les côtés, côté très à gauche et côté très à droite. Donc l'opposition, elle subsiste, et donc on n'est jamais totalement libre non plus de faire ce qu'on veut. Il y a des modalités démocratiques qui font qu'à l'Assemblée, on doit discuter les textes, tous les députés peuvent amender les propositions de loi, qu'il y a des allers-retours avec le Sénat, qui est d'ailleurs pas en marche, hein, le Sénat n'est pas de notre côté, et donc il y a tout un processus démocratique. Et il y a aussi le contre-pouvoir journalistique. Enfin, je veux dire, et qui est très, très bien. Et très,
merci
et très
de
bien. Non, mais bien évidemment. Mais c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à considérer que le contre-pouvoir ne peut être que au niveau institutionnel ou politique. En réalité, on a aussi un contre-pouvoir journalistique qui est très important et qui est essentiel à la vitalité démocratique du pays. Donc, avoir le champ libre, bien évidemment, non, parce qu'on a un système qui contrôle et qui vérifie que, justement, les choses soient équilibrées. En revanche, il y a une volonté farouche de tous les députés En Marche d'appliquer et de mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on a été élu sur un programme qu'on a co-construit avec les citoyens, les adhérents. On a été élu sur cette base-là. Emmanuel Macron a été élu sur cette base-là. Et donc, on a un attachement rigoureux, quotidien, à se dire il faut le mettre en place quoi qu'il arrive. Et donc, c'est notre objectif. Et je pense que c'est ça aussi qui rend crédible notre action quotidienne, c'est qu'on est cohérent et on est fidèle au programme sur lequel on a été élu. On fait ce que l'on dit et on avait dit ce que l'on allait faire.
Ouais. Vous avez le sentiment que la population suit. Bon, on a bien vu que les mouvements syndicaux depuis la rentrée ont fait pchit. Vous avez le sentiment que les Français vous suivent. Vous, comme député de la première circonscription, quel est votre contact et votre ressenti?
Alors, je suis assez régulièrement sur le terrain parce que je passe mon vendredi, samedi, dimanche, lundi en circonscription et puis ensuite mardi, mercredi, jeudi à l'Assemblée. Donc, je suis très souvent aussi au contact de la population partout sur la circo. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent d'abord, un, appliquez ce que vous avez dit, c'est-à-dire tenez vos engagements. Et ça, il y a une forme d'attente très forte de dire, vous respectez ce pourquoi vous avez été élu et on vous suivra. C'est-à-dire que les gens peuvent vous dire parfois on est un petit peu en désaccord avec tel ou tel point, on peut avoir des questions qui arrivent sur la CSG, sur certains points du programme, mais qui étaient d'ailleurs totalement dans notre programme. Donc il n'y a pas d'erreur sur la marchandise, hein. On fait ce qu'on a dit. Donc si vous voulez, ils peuvent avoir des questions, mais en revanche, ils sont prêts à l'accepter si vous tenez votre ligne et si vous respectez vos engagements. Ouais. C'est le premier point.
Le respect, c'est le mot-clé.
C'est le respect de l'engagement et du temps long, parce que le politique, c'est aussi un temps long, c'est-à-dire que les gens acceptent aussi, c'est le deuxième point, que les résultats n'arrivent pas forcément au bout d'une semaine. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans l'entreprise. Vous changez pas une entreprise en 6 mois. C'est pas vrai. Vous avez besoin de temps pour le faire. Donc, les gens disent, on vous jugera à l'aune des résultats. On est prêt à vous donner du temps pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Mais ce qui est important, c'est 1, tenez vos engagements, et 2, apportez-nous des résultats. Et c'est à ce moment-là qu'on vous jugera, et on tiendra compte de ces deux critères-là. Donc moi, c'est ce que j'entends au quotidien. Et donc oui, vous parlez de la mobilisation syndicale ou de la mobilisation des oppositions. Ça prend pas, effectivement, parce que je pense que les gens disent on a voté pour un programme, on a voté pour un président, on a voté pour des députés, et on veut qu'ils mettent en place leur programme. C'est ça qu'on leur demande. Laissez-leur le temps de mettre en place ce programme-là, et ensuite on pourra juger des résultats dans quelques années. Voilà, donc c'est ce que j'entends moi au quotidien.
Ouais. Deux mots sur vos premiers pas, en fait. À l'Assemblée nationale, comment ça s'est passé? Vous avez été impressionné, étonné, l'ambiance vous a plu, vous avez dit mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ça s'est passé?
Alors, ça me
parce
paraît...
que vous n'êtes pas de la politique, vous
non,
venez
pas du
monde
tout.
De l'entreprise, justement.
Je viens de l'entreprise, j'ai bossé pendant 8 ans en entreprise et je suis diplômé d'une école de commerce, donc je suis pas un politicard, entre guillemets, c'est pas moi. Mais alors du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, ça remonte à 6 mois, donc ça
oui.
me paraît déjà terriblement loin.
Je crois que vous n'avez pas interviewé encore là-dessus.
Il s'est passé tellement de choses en 6 mois que ça me paraît... Les premières impressions me paraissent déjà loin. Ce que je peux vous dire, bien évidemment, personne n'est insensible à l'institution, et à son côté impressionnant. Impressionnant pour le lieu et l'histoire que le patrimoine de l'Assemblée représente, pour les hommes et les femmes qui aussi travaillent à l'Assemblée, hein, c'est une ville dans la ville, il y a un nombre de personnes incroyables et totalement dévouées qui travaillent dans ce lieu-là, pour aussi les processus hein, qui sont très impressionnants, c'est-à-dire il y a une rigueur, il y a des codes, il y a un processus parlementaire qui est assez lourd, hein. Ça c'est sûr que quand on vient d'entreprise et qu'on a l'habitude de prendre une décision et de faire changer les choses en une semaine, on se rend compte qu'à l'Assemblée, voilà, même si on met les bouchées doubles et qu'on est sur le pont de 8h à 8h du matin à 3h du matin, il y a un temps d'inertie et il y a un processus parlementaire qu'on peut pas accélérer tous les jours, quoi. Donc il y a un peu cette frustration-là. Donc à la fois, oui, il y a de l'admiration, mais en même temps, il faut se dire que on est là pour faire un boulot, on est là pour appliquer un programme, et c'est ça ce qui doit nous guider, hein. C'est pas être impressionné par les dorures, hein. Donc il faut à un moment dépasser ça. Et deuxièmement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aussi optimiser le processus parlementaire. Moi qui viens du monde de l'entreprise, je me pose régulièrement la question des marges de manœuvre pour pouvoir accélérer les discussions et éviter qu'on ait des textes qui mettent 3 mois à être votés. Moi, le processus budgétaire est extrêmement long et complexe. Les allers-retours entre les commissions, l'hémicycle, le Sénat sont absolument chronophages et parfois amènent à répéter les discussions à chaque fois, avec parfois les mêmes amendements qui sont reposés. Donc je me dis...
Bienvenue dans le parlementarisme français. Hein.
Oui, mais je ne suis pas du tout fataliste. Moi, au contraire, je suis très volontariste. Donc en gros, ça, au contraire, c'est un très beau challenge. Je me dis qu'on a l'opportunité en 5 ans d'optimiser... le fonctionnement parlementaire et de le rendre très efficace. Je pense qu'on devrait regarder ce que font certains de nos voisins pour voir s'il n'y a pas des raccourcis pour aller plus vite et pour accélérer le travail parlementaire, tout en respectant bien évidemment l'opposition. Mais oui, vous ne m'empêcherez pas de penser qu'il y a toujours des marges de manœuvre pour améliorer le processus parlementaire, tout comme en entreprise, on peut toujours améliorer les choses. Ben, je pense qu'au Parlement, on peut toujours aussi aller plus vite et améliorer les choses.
Pour être dans l'actualité, vous avez rencontré avec plusieurs autres parlementaires, Aurélien, la ministre de la Santé. C'était pour lui parler de désertification médicale. On sait que c'est un mal récurrent en Eure-et-Loire. Comment ça s'est passé?
Alors, c'est un mal profond. En Eure-et-Loire, je vous rappelle qu'on est le dernier département de France sur le sujet, avec un taux de spécialistes pour 100 000 habitants qui est le plus faible de tous les départements, avec des délais d'attente pour avoir un généraliste ou un spécialiste qui deviennent complètement délirants, qui fait que du coup les gens préfèrent se soigner en dehors du département, avec du coup des gens qui font plus de prévention et qui vont plus avoir d'interaction médicale parce qu'ils ne peuvent pas voir leur médecin. Donc ça mène à un vrai scandale sanitaire, je pense, en Eure-et-Loire. Donc moi, j'ai décidé de me saisir aussi du sujet. Donc j'ai proposé à mes collègues parlementaires, quelle que soit leur étiquette, de signer et de co-signer avec moi une lettre auprès de la ministre pour lui dire 3 choses. Un, nous vous rappelons que l'Eure-et-Loire souffre sur la partie désertification. 2, vous avez mis en place un plan d'accès aux soins pour lutter contre la désertification. On veut en être partie prenante et on veut avancer sur ce plan-là. Et 3e, c'est de dire comment fait-on pour collectivement accélérer le déploiement de tout ce qui est prévu dans ce plan pour que concrètement, demain, les Euréliens aient un meilleur accès aux soins. Donc il y a plein de briques dans ce plan-là. Il y a de la télémédecine, il y a des pratiques avancées, le fait que des médecins hospitaliers pourraient éventuellement aller dans les territoires, voilà. Il y a les cabinets secondaires qui permettraient à des médecins d'être dans plusieurs cabinets. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a la médecine en mobilité. Donc on a des pistes de travail qui s'intègrent parfaitement au plan de la ministre. La question, c'est comment est-ce que sur le terrain, on accélère sa mise en place et on s'assure que les élus locaux et les institutions locales, l'ARS, les ordres des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, etc., se saisissent réellement de ce que la loi leur permet de faire aujourd'hui. pour mettre en œuvre des solutions d'accès aux soins. Donc moi, mon enjeu, c'est celui-là. C'est comment est-ce qu'on accélère rapidement, parce que chaque jour compte, et que chaque jour qui passe, il y a un Aurélien qui se fait pas soigner parce qu'il n'arrive pas à voir de médecin. Donc ça, c'est une vraie urgence. C'est pour ça qu'on avait l'optique de... Donc c'est pour ça qu'on l'a rencontré. Et c'est pour ça que dans les semaines et dans les mois qui viennent, moi, je continuerai, avec mon bâton de pèlerin, à aller convaincre l'ensemble des acteurs locaux qu'on peut, on peut toujours faire et expérimenter plein de choses que la loi permet et qui permettent de faire du bien pour l'accès aux soins. Voilà.
Sur le plan intérieur, certaines mesures ont pu choquer les Français les plus modestes avec une politique fiscale qui a fait dire à certains, on a vu ça, à la une de certains journaux, que Macron était le président des riches. Alors, ça veut dire quoi ? Sarko en rêvait et Macron l'a fait ?
Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision de président des riches, parce que si on était dans une politique de président des riches, on ne ferait pas gagner, entre guillemets, la majorité de la population dans la politique fiscale de demain. Or, aujourd'hui, toutes les mesures qu'on est en train de prendre, mises l'une ensemble, elles font gagner véritablement du pouvoir d'achat à une écrasante majorité de Français, et pas juste les riches. Et si on était dans une optique de favoriser que les riches, on n'augmenterait pas le minimum vieillesse. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le minimum vieillesse, il est à 800 euros. C'est-à-dire qu'on a des personnes âgées qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Nous, on a décidé qu'il fallait monter de 800 à 900 euros. Bon, mais ça, c'est pas une politique des riches. Quand on revalorise l'allocation adulte handicapé, là aussi, on l'augmente de 100 euros par mois. Donc là aussi, c'est pas une politique de riches. Quand on dit qu'il faut que quelqu'un qui est au SMIC, grâce à la baisse des charges qu'on va lui procurer, il puisse gagner un 13e mois à l'issue du quinquennat, là aussi, ce n'est pas une politique des riches, puisqu'on parle à quelqu'un qui a le SMIC. Donc, moi, ça me touche un peu quand on me dit que c'est une politique des riches, parce que foncièrement, ce n'est pas le cas. On a une attention particulière aux plus faibles. C'est bien pour ça qu'on parle de libérer et protéger en même temps. En revanche, on assume totalement le fait que, oui, quelqu'un qui travaille et qui a un certain revenu, il va lui aussi bénéficier d'une baisse de charges. Ça, on l'admet. On admet aussi que quelqu'un qui est aujourd'hui soumis à l'ISF, demain, on va lui enlever les biens mobiliers qui étaient soumis à l'ISF et on va lui faire payer juste les biens immobiliers. On l'assume parce que, si vous voulez, on ne peut pas aujourd'hui regretter d'avoir des entreprises qui sont sous-capitalisées. Des Français riches, entre guillemets, qui n'investissent pas assez dans les valeurs mobilières, c'est-à-dire dans des actions, dans des entreprises, dans des TPE, dans des PME, et en même temps de rien faire. Donc nous, on prend nos responsabilités et on dit, ces Français-là qui ont des moyens, on continue à leur faire payer un impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire que s'ils ont des appartements secondaires à Biarritz, à Courchevel ou à Nice, que sais-je, tant mieux pour eux, mais ils continueront à payer comme s'ils payaient un ISF dessus. En revanche, s'ils investissent dans une entreprise d'artisanat, dans une PME, etc., on le retire du calcul de l'ISF. Mais on ne le fait pas pour favoriser les riches, on le fait pour favoriser l'investissement et l'économie. Donc c'est ça le but. Donc si vous voulez, voilà, pour le dire autrement, moi je pense qu'on a une politique très équilibrée et qui protège les plus faibles, très clairement. Et en même temps, on accepte parfaitement de se dire il faut que le capital dans notre pays il favorise l'investissement productif et les valeurs mobilières. Et donc, on est prêt à accepter d'inciter fiscalement les personnes qui ont les moyens de le faire. Donc, c'est une politique équilibrée qui vise à être tout simplement efficace sur le plan économique et protecteur vis-à-vis des plus faibles.
Je voudrais qu'on parle de quelqu'un qui s'appelle Mohamed Sahou, qui est membre de La République En Marche dans le Val d'Oise et qui, lors des attentats de Charlie, avait tweeté « Je ne suis pas Charlie, je ne me reconnais pas dans les valeurs de Charlie ». Ça devait être à peu près ça, je ne sais pas la citation exacte, qui a été aussi très proche du CCIF et proche, on va dire, de l'islam politique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? On sait qu'elle a eu, on lui avait retiré, je crois qu'il était référent de La République En Marche pour le Val d'Oise, ce mandat lui a été retiré. Et qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, en ce qui concerne Mohamed Sahou, donc c'était un référent départemental du mouvement dans le Val d'Oise. La polémique autour de ses propos est apparue au mois d'avril, donc juste avant les présidentielles. Et Emmanuel Macron, à l'époque, avait dit « on le suspend ». Donc on lui suspend ses fonctions et on met en place une commission d'éthique au sein du mouvement qui va réellement creuser les propos qu'il a tenus sur Facebook et Twitter, l'interroger, voir réellement ce qu'il y avait derrière, quelle était sa pensée, etc. Il se trouve que cette commission d'éthique a fait son boulot et qu'au bout de quelques mois, elle a considéré que ce qu'on lui imputait sur le plan médiatique n'était en réalité pas aussi grave que ce que les médias étaient en train de le dire. Et le deuxième élément, c'était qu'il était plébiscité par les adhérents et les animateurs du Val d'Oise, puisqu'on leur a demandé leur avis, hein, on est assez démocratique, donc on leur a dit qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faut faire. Et à l'écrasante majorité, ils ont souhaité le reconduire. Ce qui fait que je crois qu'au mois d'octobre...
Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Alors je finis juste, au mois d'octobre, il a retrouvé du coup son rôle de référent de La République En Marche dans le département du Val-d'Oise, d'une part parce qu'il avait été blanchi par la commission d'éthique, et d'autre part parce qu'il était plébiscité par les animateurs et les adhérents. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Moi, je vais vous dire, j'ai un profond respect pour le fonctionnement interne des institutions, donc si on a une commission d'éthique indépendante qui s'est réunie, qui a étudié les choses en profondeur, et qui ne s'est pas contentée de tirer trois phrases et de les monter en mayonnaise, je fais confiance à la commission d'éthique pour avoir pris la bonne décision. À titre personnel, c'est des propos que moi j'aurais à mon avis jamais tenus, parce que moi je suis profondément Charlie, je suis profondément sensible à ces questions-là, je serai toujours du côté de Charlie et je me poserai jamais la question de savoir, j'aurai jamais une pensée alternative à celle-là. Donc si vous voulez, pour moi, ça me paraît évident, mais les propos qui ont pu éventuellement choquer et faire polémique, je ne les partage pas, je ne les aurais jamais tenus parce que moi, je suis Charlie.
Voilà. Parce que ce genre de propos, on les entend aussi du côté de la France insoumise, par exemple.
Oui, mais c'est agaçant. C'est agaçant parce que ça fait partie des moments de notre histoire récente douloureuse sur lequel il devrait y avoir une unité nationale.
Une unité nationale.
Quel que soit le parti, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit... Voilà, je pense que... D'ailleurs, on l'a vu, quand ces événements sont arrivés, il y a une formidable union nationale qui s'est créée avec un sentiment commun partagé. Et moi, je m'inscris totalement dans ce sentiment commun partagé et dans cette unité nationale sur le sujet. Et on ne devrait jamais en sortir parce que, voilà, il ne faut pas jouer avec ces sentiments-là et avec ces événements-là qui sont gravissimes. Voilà.
Il nous reste 2 minutes. Je voudrais simplement vous poser une question. Qu'est-ce que votre sentiment sur les 6 premiers mois du président Macron au niveau international ? On peut dire qu'il a impressionné un peu tout le monde avec une forme d'assurance tranquille qui est assez étonnante de la part d'un jeune homme de 39 ans. Hein.
Oui, je pense qu'il impressionne beaucoup de monde. Je pense qu'il a pris complètement le costume du président, qu'il l'assume pleinement. Et effectivement, il nous rend fiers parce qu'il préside réellement. Quand il a des échanges avec ses homologues étrangers, que ce soit au Canada, mais que ce soit aussi en Afrique, que ce soit en Algérie récemment, que ce soit avec les Russes, avec M. Poutine, que ce soit avec ses partenaires européens, je trouve qu'il a d'énormes qualités qui fait qu'il a une démarche admirable. Il est très franc, c'est-à-dire il dit les choses, il nomme les choses sans langue de bois. Quand il va en Afrique, vous avez vu quand même la franchise des échanges qu'il a pu avoir localement, y compris avec des étudiants locaux. La franchise qu'il a pu avoir avec M. Poutine, quand il l'a reçu. Je trouve que cette franchise-là, elle détonne, qu'elle est en même temps profondément respectueuse des interlocuteurs avec lesquels il parle. Regardez ce qu'il a fait même avec Hariri et l'Arabie Saoudite. Mmh. Il a eu un vrai rôle de médiation en ayant le bon mot avec les bons interlocuteurs. Ouais. Donc je pense qu'il nous rend fiers en 6 mois d'avoir fait autant sur la scène internationale, parce qu'il préside réellement, parce qu'il est dans la franchise, dans les échanges, parce qu'il n'essaie pas de jouer un rôle, il reste aussi naturel, je pense, dans ces échanges-là, et parce qu'il est capable de ne pas opposer les uns aux autres. C'est important aussi. On est toujours dans l'optique de la réconciliation, comme je disais tout à l'heure.
La 5e République lui va comme un gant. Hein.
Oui, tout à fait. Je pense que le rôle lui va comme un gant. Je pense qu'il le joue pleinement. Et je pense que... moi, personnellement, bien évidemment, j'en suis très fier. Mais j'entends beaucoup de Français au marché ou dans la rue qui me disent « on est fiers de sa posture internationale ». C'est quelqu'un qui nous rend fiers de la représentation de la France à l'étranger. C'est quelqu'un qui nous rend fiers d'être Français à l'étranger, parce qu'il arrive à avoir cette aura-là dans les différents pays qu'il visite et dans les différents échanges qu'il a, avec de vrais résultats. Encore une fois, je vous rappelle, la question Hariri a quand même été largement résolue grâce à son action. Donc non seulement il y a du style et du panache, et en même temps il y a aussi des résultats.
Efficacité. Voilà. Ouais. Guillaume Kasbarian, merci beaucoup de nous avoir consacré une demi-heure de votre temps.
Merci à vous, monsieur Julien.